Cet été, Radio Royan Vercors vous emmène découvrir la nouvelle muséographie du musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux. Rencontre avec Loïc Mathieu, médiateur culturel et assistant de conservation.
Oui, donc c'est la phase 2 de la refonte muséographique. Donc c'est une refonte partielle, mais qui a quand même énormément changé la physionomie de la visite du musée. Le fil rouge de cette exposition, c'est le silex et ses usages durant différentes périodes de la préhistoire. Et on va aborder différentes techniques et méthodes de taille du silex par les différents groupes humains qui se sont succédés dans le Vercors pendant la préhistoire. Alors, elle commence à peu près il y a 50 000 ans par les groupes néandertaliens qui parcourent le Vercors. Et puis, ici, on est dans un musée de site du néolithique final. Donc, on est il y a à peu près 4 500 ans. Et des tailleurs de grandes lames de silex sont venus à Vassieux, tout simplement parce qu'ils ont trouvé ici la matière première disponible pour leur production. Et le site a été préservé puisqu'on a construit les murs du musée autour de ces sites archéologiques.
Ouais, c'est un musée qui est assez incroyable, déjà pour cette première caractéristique et puis aussi pour son implantation. Là, on est donc dans la salle de l'exposition à l'étage. On a une vue sur le Grand Vémont, la belle forêt de hêtres juste en dessous. C'est assez lumineux. Et donc, cette nouvelle muséo, il y a pas mal de couleurs aussi. Il y a des volumes, il y a des vitrines, il y a des objets, il y a des vidéos. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le rôle de cette nouvelle muséo et comment elle a été construite ?
Oui, alors on a différents dispositifs en fait qui construisent ce parcours. Alors un parcours qui aborde quand même une chronologie, mais qui ne laisse pas une place énorme à la chronologie en préhistoire. Mais par contre, pour chaque période, pour chaque saison, on a différents dispositifs comme un diorama pour pouvoir envisager peut-être le paysage à des périodes climatiques différentes, un objet phare qui va mettre un peu en avant une production à un moment donné par les humanités préhistoriques. Toujours des explications sur les humanités ou les groupes humains qui sont responsables de ces passages-là, qui ont commis ces passages-là. Et puis, deux vitrines qui, bien souvent, sur chaque période, on a gardé deux à trois vitrines qui évoquent les sites archéologiques qui ont été mis au jour en Vercors, ces différentes industries lithiques. Grande nouveauté cette année, puisqu'on a, du fait qu'on aborde le silex et la taille du silex à ces différentes périodes, nous avons réalisé au musée, avec la participation de Jacques Pellegrin, qui est un préhistorien, professeur émérite en préhistoire, qui a bien voulu venir faire des petits films qui expliquent en fait aux visiteurs les différentes tailles de silex. Donc que ce soit ici, puisque là on est dans ce paléolithique moyen, la saison 1 maintenant de la muséographie, une taille d'un éclat qu'on appelle le Valois, en quelques minutes, hein, puisque c'est quand même des condensés de films, hein, on voit pas toute la durée du film, chaque film qui a été réalisé dure à peu près 3 à 4 minutes, va montrer un peu les intentions, les gestes des tailleurs. Et puis ce que l'on voit être taillé dans le film, chaque film va se terminer par un usage d'un des outils fabriqués. On va vraiment voir la mise en application de ces outils-là. Et puis on retrouvera également l'outil qui a été taillé dans le film, qui est devenu dans la muséographie un objet à toucher, donc aussi un nouveau dispositif dans la médiation. Puisque les visiteurs vont pouvoir, du bout du doigt, toucher les outils qui ont permis de tailler, notamment ici, cet éclat levallois. Et ils retrouveront également l'éclat levallois à toucher. Effectivement, les films sont sans parole, juste le bruit de la taille du silex. Donc, ces objets à toucher, et puis les petits meubles à volets qui, en fait, vont concerner durant toute la visite, tout ce qui est industrie osseuse, enfin, ou les restes osseux, pas que les industries, mais les restes osseux également. Et ça permet d'aborder un peu les espèces qui étaient présentes à certaines périodes, ou les espèces qui ont été principalement chassées à d'autres, ou les espèces élevées au néolithique. Donc voilà, c'est à chaque fois quand même le dispositif. C'est pas des grandes surprises puisque tous les meubles qu'on appelle à volets vont concerner les ossements.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière systématique dans ces différentes saisons. Donc là, on était dans la première partie, donc première saison. Ensuite, il y a saison 2. Est-ce qu'on peut survoler un peu les différentes saisons qui sont présentes dans le musée ?
Oui, alors là, pour ça, on va revenir quand même à un peu de la chronologie en préhistoire. Donc la saison 1, c'est en préhistoire ce qu'on appelle le paléolithique moyen, donc la présence des Néandertaliens en Vercors. Quand on franchit la saison 2, on arrive aux présences des Homo sapiens, et ça, bah, ça sera la dernière humanité qui restera en Vercors jusqu'au néolithique final. On va comme ça être dans cette saison 2 au paléolithique qu'on appelle récent, qu'on appelle également, c'est la même chose, mais paléolithique supérieur. La saison 3, on sera dans une autre petite période de la préhistoire qu'on appelle le mésolithique. Et puis on a scindé quand même la dernière période de la préhistoire, qu'on appelle le néolithique, en deux saisons. Donc la saison 4 pour ce qui est nommé le néolithique ancien et moyen. Et puis la saison 5 qui nous fait rentrer vraiment dans le cœur du musée, puisqu'on rentre dans le site archéologique, dans la salle du site archéologique. Et dans cette saison, on évoque vraiment les tailleurs de grandes lames de silex qui sont venus tailler à Vassieux, et notamment aussi les correspondances entre les tailleurs de Vassieux qui ont appris ou qui ont taillé également avec d'autres tailleurs que l'on peut retrouver au Grand Précigny en Indre-et-Loire, c'est en Touraine.
Et donc ça, c'est un autre site de taille de silex. Et d'ailleurs, hors micro, tu me disais qu'ils vous avaient prêté gracieusement une vidéo qui est en complément donc de ces nouvelles vidéos qu'on peut découvrir dans le musée. Et là, on y découvre là aussi des techniques pour tailler cette grande lame.
Oui, tout à fait. Alors, en plus de ce film-là, dans la nouvelle muséographie, on a des nouveaux objets qui nous ont été prêtés, alors que ce soit par le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, que ce soit par le département de l'Isère, le département d'Indre-et-Loire également avec le musée du Grand Précigny. Nous aurons bientôt également une grande lame de Vassieux qui était conservée jusqu'alors au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye et qui va être également prêtée au musée. Donc on a des nouveaux objets qui intègrent aussi cette nouvelle muséographie avec du coup différents partenariats qui ont pu être noués avec des structures aussi bien muséales que départementales.
Et dans les petites nouveautés aussi qu'on peut voir donc dans cette nouvelle muséographie, c'est la présence de nouveaux dessins et d'une nouvelle maquette notamment qui vient mettre sur site un petit campement au pied d'une falaise un peu plus loin. Ça, c'est des choses qui ont été réalisées. Est-ce que vous accompagnez les structures qui vont réaliser ces dessins, ces maquettes ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, les maquettes, hormis la maquette de la Grande Rivoire qui est nouvelle au musée, mais qui avait déjà été réalisée, là, c'est un prêt du département de l'Isère. Les dessins, par contre, effectivement, tous les nouveaux dessins qui ont été réalisés par une illustratrice qui s'appelle Amélie Vaux, elle a été accompagnée, que ce soit par Régis Picavet, qui est archéologue et qui est notre référent scientifique au musée pour tout ce qui est paysage, et qui également a fait appel à d'autres archéologues pour qu'on essaye d'avoir vraiment une justesse de ces paysages maintenant disparus, mais qu'on essaye vraiment de montrer au public quels étaient les environnements à ces périodes-là. Et puis elle a été accompagnée également dans toutes les illustrations, puisque on est toujours dans le fil rouge du silex et son usage, des illustrations qui expliquent en quelques dessins une méthode, une technique de taille en rapport avec l'objet phare qui est présenté dans une des saisons du musée, quoi.
Et donc là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc c'est vrai qu'il y a les objets qui sont présentés donc sur ces nouveaux présentoirs qui sont des petites structures métalliques toutes discrètes mais qui permettent de vraiment mettre en valeur les différents objets, les différentes choses qui sont présentées. Il y a des textes et puis il y a des endroits comme les petits tiroirs qui sont juste devant nous qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension de ce contexte ou d'un fait scientifique.
Oui, différents niveaux de lecture en fait dans cette nouvelle muséographie. Ces petits tiroirs, c'est disons le niveau qu'on va appeler pas experts, mais des gens qui ont déjà une appétence pour la préhistoire. L'intégralité de la muséographie a été imaginée pour avoir un nombre de mots pas très très important. On essaye de pas trop partir sur des termes trop techniques non plus pour que les gens ne soient pas perdus dès la première lecture. Donc, ces différents niveaux de lecture, comme on a pu l'évoquer, entre les maquettes, des objets soclés, des dessins, les objets à toucher, les meubles à volets, du coup, qui vont rythmer pas mal, en fait, le passage dans chaque période, en évitant peut-être une lassitude à regarder juste une vitrine après l'autre.
Et ça, c'est quelque chose donc qui est important de souligner. Donc évidemment, c'est un lieu qui est très propice à la venue des familles, des scolaires, des enfants. Et puis, il y a aussi des visites guidées qui sont proposées. Ça, est-ce que tu peux nous détailler comment ça se passe, ce qu'il faut réserver ou pas?
Alors, les visites guidées, pour les groupes, oui, c'est sur réservation. Et cette année, avec cette nouvelle muséographie, dans le cadre ce qu'on appelle les ateliers d'été au musée, on a intégré une visite guidée pour les familles et les publics individuels, qui n'étaient pas proposés jusqu'alors. Chacune de ces visites guidées va débuter par une démonstration de taille de silex dans une autre salle du musée. Et puis après, avec un médiateur ou une médiatrice du musée, le groupe viendra découvrir cette muséographie. Alors, c'est pas un regard posé sur chaque vitrine, mais on va évoquer plus de l'anecdotique, plus quand même la chronologie, et puis vraiment, encore et encore, la taille du silex.
Et donc c'est un beau moment et une bonne manière de découvrir de manière interactive, de poser des questions, de venir discuter avec vous. Il y a d'autres propositions que vous allez faire. Donc il y a déjà les ateliers, on peut peut-être les renommer et les reciter.
Oui, alors tous les mercredis et les jeudis durant l'été, chaque jour on va proposer 3 ateliers. Alors il peut y avoir l'atelier petit meunier, l'atelier feu, l'atelier chasse, une visite guidée, l'atelier parure et l'atelier apprenti archéologue. Donc ça, c'est des ateliers qu'il est nécessaire quand même de réserver au musée, soit par un petit coup de téléphone, soit par un mail, puisque certains ateliers sont réservés aux enfants à partir de 7-8 ans, d'autres sont ouverts dès 4 ans. Et puis, on a, en plus de ce programme récurrent sur tout l'été, on a un événement qui va être proposé les mercredis 5 et jeudi 6 août, c'est Silex et compagnie, la fête de la préhistoire. Donc ça sera la 3e édition cette année. Durant ces 2 jours, en fait, on fait également intervenir d'autres médiateurs ou prestataires pour proposer un très large panel d'ateliers au public présent. Donc cette année, on aura Artisans de la Préhistoire qui viendra faire des ateliers sur les industries osseuses. On aura Archéozoo qui viendra proposer des jeux sur l'archéozoologie et la faune. On aura une vannière, c'est Vannerie Paysanne de Saint-Julien-en-Vercors, qui viendra proposer les après-midi 2 ateliers de vannerie. Et puis on aura un conteur également qui sera présent, où là, dans le tipi, il pourra proposer tout au long de ces 2 jours-là différents contes. Nous aurons le plaisir d'accueillir le mercredi 5 août une conférence proposée par Julien Treuillot, qui est un archéologue. Et on a choisi un thème de conférence, j'allais dire grand public, puisque c'est une introduction à la préhistoire. On ne va pas rentrer dans des détails sur un site précis. C'est vraiment les nouveautés des recherches archéologiques puissent être portées à connaissance du grand public par un archéologue que nous avions déjà reçu au musée il y a quelques années pour une conférence sur la femme en préhistoire. Donc l'idée d'intégrer cette conférence dans le cadre de Silex et compagnie, c'est de permettre également au grand public de rencontrer un et des archéologues et puis de pouvoir également poser des questions à l'issue de la conférence. Donc au niveau des horaires, ce sera de 10h à 18h. Toutes les propositions d'ateliers seront bientôt mises en ligne avec les horaires précis. Et donc là, il faudra réserver à l'avance. Et le tarif cette année, l'entrée pour les adultes à 10€, les enfants à 8€. Et ce tarif inclut la participation aux ateliers auxquels les gens sont inscrits, la visite libre du musée, le fait de pouvoir assister aux démonstrations de taille de silex qui seront également proposées. Donc c'est vraiment le tarif pour une journée dans le musée. On va appliquer également un tarif famille à 28€, c'est-à-dire que 2 adultes paieront et un enfant sur 2 paieront. toute la famille pourra participer aux différentes animations proposées dans le cadre de cette grande fête de la préhistoire. Et on aura également la présence des gardes de la réserve naturelle qui viennent aussi expliquer un petit peu leur boulot et puis le milieu naturel de la réserve au public présent. En plus des ateliers et des animations proposées par l'équipe du musée.
Oui, et là, ça fait un pont direct. C'est important de repréciser que le musée de la préhistoire du Vercors, il est rattaché au parc naturel régional du Vercors. Ça fait partie de cette même structure. Et du coup, ça nous permet de faire un petit lien sur cette question du paysage qui nous entoure. C'est vrai qu'on est en plein cœur du parc. Et le musée dispose d'espaces extérieurs qui sont très agréables, notamment l'été, quand il fait chaud. On peut être au frais, on peut prolonger sa visite d'un pique-nique. Est-ce qu'il y a des petites balades, d'ailleurs, à faire autour quand on vient en famille?
On est à l'entrée de la forêt de Bassieux, mais bon, souvent les journées au musée, le public reste souvent au musée. Cet été, il y aura également un petit jeu en extérieur qui sera proposé aux familles. On a une exposition également temporaire en extérieur. Donc assez souvent, les familles restent quand même pas mal de temps sur le site du musée, entre la visite, les démonstrations de taille, les jours d'atelier. Retour vers la préhistoire qui se trouve en extérieur, donc ça laisse quand même pas mal de temps à passer en plein milieu de cette nature, puisque le musée est vraiment situé au sud du plateau de Bassieux, à l'entrée de la forêt qui se trouve au sud du plateau. On est dans la saison 4, donc qui correspond à la période du néolithique, et plus précisément les périodes néolithiques anciens et néolithiques moyens. Les groupes humains ont changé à cette période de mode de vie. Jusqu'alors, on était des collecteurs, souvent nomades, chasseurs-cueilleurs. Et puis, dans cette période du néolithique, l'agriculture est inventée. Donc on voit apparaître de nouvelles industries, de nouveaux objets, même si les objets en pierre taillée vont perdurer jusqu'à la fin de la préhistoire, on retrouve à cette période ce qu'on appelle aussi les pierres polies. Alors c'est pas la grande différence qu'on apprend souvent à l'école, paléolithique, âge de la pierre taillée, néolithique, âge de la pierre polie. Les distinctions sont un peu plus larges que ça. Non, c'est vraiment les modes de vie qu'on va pouvoir mettre en avant. Mais effectivement, on voit des nouvelles matières qui sont travaillées, notamment les céramiques. On voit apparaître des roches qui ne se taillent pas, mais qui vont être polies après avoir été bouchardées. Le bouchardage, en fait, on prend deux cailloux, avec l'un on tape sur l'autre, et on va mettre en forme le caillou choisi pour obtenir soit des haches polies, soit des herminettes qui vont permettre également de travailler le bois.
Donc là, on est vraiment dans la conception et la construction de nouveaux outils adaptés à cette agriculture.
Tout à fait, oui. Et puis là, on est dans devant cette vitrine de la Grande Rivoire, hein, puisqu'on a eu la chance d'avoir ce prêt de cette grande maquette qui a nécessité quelques aménagements vu la taille, où l'on peut vraiment voir donc cet abri de la Grande Rivoire qui se trouve à Sassenage, hein, en descendant au nord du Vercors en direction de Grenoble, qui est un site majeur sur le Vercors puisqu'il a... Il a donné énormément de niveaux d'occupation depuis le Mésolithique jusqu'aux âges du fer. Et la maquette, là, représente en fait l'utilisation de cet abri dit de la Grande Rivoire au Néolithique moyen, où on peut voir effectivement des troupeaux, on peut voir les activités un petit peu de groupes humains qui montent encore un petit peu à cette période sur les territoires d'en haut, mais qui vont plus rester dans les grottes-bergeries, qui se trouve souvent au piémont du Vercors, et puis dans ces abris semblent être parqués les troupeaux.
Et donc ça, c'est un site qui a été retrouvé, donc comme tu le disais, à Sassenage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en aurait eu également dans les contreforts du Vercors, plutôt côté Royan ou Trièves, ou alors est-ce que c'est vraiment typique de cette zone-là?
Ah non, les grottes bergeries, elles sont présentes dans plusieurs endroits dans les piémonts du Vercors. Alors notamment, on en trouve une dans le Haut-Diwa, la Thune de la Varenne, qui est une grotte qui se visite que sur réservation, mais qui est également une grotte bergerie connue autour du Vercors. Le climat a également changé, et donc on a des adaptations des modes de vie à des périodes climatiques et à des besoins Également, donc les outils, les nouveaux outils vont très souvent répondre à des besoins du moment, en fonction des climats, en fonction de la faune, en fonction du style de vie. Mais c'était déjà le cas quand les groupes humains étaient chasseurs-cueilleurs. On va, en fonction des climats, en fonction des espèces de faune, pouvoir adapter certains outils ou certaines armes. Et c'est ce qu'on retrouve toujours et encore au Néolithique.
Et donc là, dans les outils que l'on voit également dans cette deuxième partie de salle, il y a des choses qui se rapprochent à des choses qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, notamment des choses pour moudre et peut-être pour écraser dans la cuisine, donc des meules et des molettes.
Tout à fait, on est toujours donc dans ces nouveaux outils du Néolithique. On était des collecteurs, enfin quand je dis « on », les groupes humains étaient collecteurs, ils deviennent producteurs pour produire. On va changer quand même considérablement notre environnement. Et donc, dans cette vitrine, on peut voir notamment une hache polie. On va pouvoir voir une reproduction d'une faucille également, puisque on va essayer quand même d'avoir une production végétale. Et il va bien falloir la récolter. Quand elle est récoltée, on va pouvoir la transformer. Et meules et molettes vont servir à faire les moutures pour obtenir de la farine. Et puis, une fois qu'on a des stocks de farine ou de grains, on a les céramiques qui vont permettre le stockage de ces matières-là.
C'était un extrait de la visite sonore de la nouvelle muséographie du Musée de la Préhistoire du Vercors à Vassieux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur préhistoire-vercors.fr ou radioroyon.fr.